Le scénarium est la matière dont on forge les histoires, mais également le lieu où elles se déroulent et prennent vie. Écoutons et parcourons ensemble les voies du scénarium.
Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.
Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez.
Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations.
Ils conduisent les hobbits en mise en garde.
Je s'appelle Groot.
Il n'y avait qu'un moyen de sortir d'ici et vous l'avez coupé.
Peut-être que vous étiez mieux dans votre cellule.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Exterminate! Exterminate! Exterminate!
Nous sommes au bord d'un carrefour éruptif quadruple d'une libération d'énergie tellement formidable qu'elle en sera même dangereuse.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Là où on va, on n'a pas besoin de route.
Bah là, on joue là, c'est sérieux?
Bienvenue dans cette nouvelle émission des Voix du Scénarium. J'ai avec moi pour cette émission quelqu'un dont vous avez entendu la voix il n'y a pas si longtemps que ça.
Eh oui, si vous nous écoutiez.
Il doit avoir son duvet avant. Quelque part. merci Romain de partager cette émission avec moi.
Mais oui, ça fait un... Quand tu m'avais parlé de ce projet d'émission, je t'ai dit « mais j'aurais peut-être une idée de chronique ».
Donc et tu voulais parler de trucs qui sont pas forcément sortis en français. Hein,
voilà, c'est
si,
ça.
Je crois que sur la première chronique. Alors, pour la petite histoire, chers auditeurs, c'est une chronique qu'on a déjà enregistrée une fois et c'était la première fois de ma vie que je me plantais dans un enregistrement. Tout était hyper saturé. Alors quand c'est trop bas l'enregistrement, on peut arriver à faire quelque chose. Quand c'est saturé, malheureusement, c'est absolument inaudible. Donc j'ai préféré avoir Romain pour pouvoir avoir sa douce voix et une douce et mélodieuse voix.
C'est gentil.
Pour pouvoir avoir une belle chronique. Ah, du coup, vas-y, je t'ai coupé parce que tu voulais nous parler de quoi en fait?
Eh ben, donc, je voulais vous parler des troubleshooters. Alors, en fait, donc, ma chronique, c'est Speak English or Die. C'est vraiment sur les jeux qui n'ont pas été traduits en français. Mais ça commence mal en fait. Celui-là est déjà un petit peu partiellement traduit en français.
J'ai l'impression que ça va de plus en plus vite en fait, les traductions. Je travaille avec Casus Belli et on voulait essayer de parler des jeux de chez Free Alien, par exemple. Puis on nous a dit, non, parce qu'en fait, le 6 mois après, ils sortent en version française chez Agathe. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire?
De faire quoi? Ah oui.
De parler d'un ouvrage.
Ah si, aussi.
Hop, pardon. Excusez-moi, mesdames, messieurs.
Si, ça vaut le coup quand même. Et celui-là, moi, ça fait quand même 2 ans que je l'ai payé, ce jeu et tout. Et pour le moment, on y joue. Pas en VO, en fait. Le Quick Start, comme on dit en kit d'initiation, a été quand même traduit par Arkham Asylum, c'est aussi eux qui vont sortir ça. Ils avaient plutôt intérêt d'ailleurs à le faire parce qu'en fait le jeu a été financé participativement et dès le financement participatif, Arkham Asylum était dans le projet. Et donc, ils géraient en fait la partie française de présentation de tout ça. Et donc, il fallait quand même pour teaser, c'était bien d'avoir ce petit... Ça se fait souvent maintenant, quand il y a un jeu qui est en financement participatif sur le net, je trouve. On a souvent déjà, on peut télécharger sur cette page souvent un aperçu en fait de ce que sera le jeu, quoi. Ouais. Souvent quand même un peu tout un petit peu une partie background et puis aussi un peu les règles quoi. Et donc là donc les risques tout c'était prévu dès le début en fait. Alors c'est un jeu qui a été créé par un Suédois qui est assez fan, enfin il est fan de BD franco-belge en fait, c'est pour ça qu'il a fait ce jeu de rôle.
Encore un jeu suédois, tu vois.
Ouais, tout à fait. Il travaille chez Helmgast qui internationalement je crois n'ont sorti que Cult, donc univers
qui a été refait là, il y a très récemment.
C'est eux il me semble qui l'ont refait. Bon là on est parti sur un truc complètement différent, là on part donc sur un jeu de rôle à visée complètement familiale. C'est aussi pour ça que moi j'ai participé à ce truc parce que je voulais jouer avec un peu toutes les générations dans la famille et effectivement ça marche. Bon, toutes les générations parce que mon fils par exemple aussi lit Spirou et mon père aussi quoi. Donc c'est un peu le truc qui nous rejoint quoi. C'est un peu la BD franco-belge. Alors,
du coup peut-être que c'est intéressant maintenant que tu teases un petit peu, tu parles de Spirou, mais de quoi ça parle, quel est l'univers un peu de ça?
Alors, l'univers précisément...
Ou pourquoi tu parles de Spirou? Parce que tu nous as pas... Moi, je sais pourquoi.
Bah, alors déjà, en fait, les visuels du jeu, tout de suite, mais ça a été fait exprès. Alors en fait, Christer Sonderlin, là, le gars qui est derrière tout ça, il est fan de Spirou et de Yoko Tsuno aussi.
Ok.
Et donc, il voulait faire vraiment un jeu de rôle, on va dire, d'aventure... dans un style franco-belge, donc il y a quand même déjà des visuels, le jeu a été vendu sur des visuels qui s'inspirent pas mal, et puis après si on va creuser un petit peu, moi j'ai déjà fait jouer deux scénarios du jeu en fait, et on se retrouve avec par exemple des pistolets qui déclenchent des rayons paralysants et tout, qui peuvent rappeler un peu le rayon Z, quoi, chose comme ça. Donc je pense qu'il y a beaucoup de références en fait, mais c'est plutôt Spirou, pour moi c'est plutôt un état d'esprit en fait, histoire d'aventure avec beaucoup de rebondissements, de l'humour, des personnages très caricaturaux, donc que ce soit du côté des héros ou des méchants. On peut penser aussi un petit peu à Tintin par exemple, ou Yoko Tsuno, parce qu'on voyage beaucoup. Et alors moi ça me fait un petit peu penser à James Bond aussi, parce que alors ça se passe dans les années 60 déjà. Donc il y a aussi ce côté rétro. Et puis il y a pas mal de gadgets et trucs comme ça. Et on voyage beaucoup. D'ailleurs, dès le financement participatif, il prévoyait... Alors la fiche de personnage, en fait, ressemble un petit peu à un passeport. Et donc on pouvait acheter, comme on appelle ça, un dossier de personnage qui est vraiment là, un peu plus luxueux, où on met des coups de tampon, je crois. Mais il y a des autocollants, en fait, qui sont donnés, qu'on peut acheter dans le commerce.
Les zones où tu as voyagé qui sont matérialisées sur la feuille de perso.
Ouais, c'est juste pour le fun. Hein. C'est un peu à la fin de chaque aventure, où quand on passe par l'aéroport, on se dit, voilà, pop, je récupère un petit autocollant sur mon truc. Bon, ça s'appelait aussi aux enfants, si je pense, de coller des autocollants sur sa feuille de perso.
Ça donne un côté très ludique, en fait, au truc.
Ouais, tout à fait, ouais.
Tu parlais du coup de Yoko Tsuno et tout ça. Moi, je vois un petit peu un côté Blake et Mortimer aussi sur le côté aventure. Peut-être ouais, moins sérieux voilà. Quand même, mais ouais. Le meilleur de la BD franco-belge des années 80-90, quoi.
Ah, plus rétro que ça, hein, je pense. C'est plutôt années 60-70, moi, à mon avis, ces inspirations, quoi. Okay. Et d'ailleurs, il situe le jeu dans des années 60. Alors, légèrement uchronique, hein, parce que c'est pas les Américains qu'on parlait tout à l'heure du drapeau qui était sur la Lune. Je crois que c'est les Japonais, là. Mais alors, ça, j'ai pas encore trop lu un peu tout le background et tout, mais ça empêche pas de jouer. Et il a aussi inventé des pays de l'Est qui n'existent pas, comme le faisait Hergé, quoi. Un petit peu caricaturaux aussi, mais bon.
En style d'avis, c'est ça.
Voilà, je sais plus comment il a rappelé ça, mais alors le côté caricatural, c'était un truc qui me plaisait aussi parce que bon, pour le role playing, c'est quand même cool d'avoir des personnages
Bah, puis de pas se prendre la tête.
Notamment qu'on des défauts d'ailleurs, hein, parce qu'on a alors il y a quand même quelques prix tirés qui sont sortis qui synthétisent un petit peu tout ça, et puis il y en a un qui ressemble quand même pas mal au Capitaine Haddock. Donc il a vraiment le défaut, il est alcoolique, il est un peu bagarreur, hein, tout ça, c'est un ancien de l'armée. Il est aussi un peu colérique, quoi, tu vois. Donc ça peut aussi inspirer, je sais pas, des role-playing que moi je trouve assez sympa. Et puis quand on est le maître du jeu et qu'on doit incarner un méchant, autant que ce soit un super uber méchant, quoi.
Avec une grosse moustache en forme de zigzag.
Voilà, c'est ça. Ils ont tous des tenues violettes et tout. Tous ces sbires ont des uniformes et tout, avec, tu vois, le petit sigle de son organisation et tout, qui s'appelle The Octopus, hein, c'est la pieuvre. Hein. C'est vraiment comme Spectre dans James Bond, je trouve.
Ah, terrible. Et au niveau jeu, ça fonctionne comment ? Tu te rappelles un peu le gameplay ?
On dirait que c'est un peu le système basic. Hein. On a une 20, 25, je crois, compétences qui sont des pourcentages, et on doit réussir un jet de dés dessous pour réussir son action. Et puis si on a utilisé une compétence pendant le jeu et que ça a fait avancer l'histoire, on met une petite croix sur cette compétence et on peut la monter en fait en refaisant un jet à la fin de la session, quoi.
Voilà. Ouais, effectivement, le système Chaosium qui a fait ses heures de gloire sur l'appel Cthulhu, quoi.
Exactement, ouais. Et aussi les points d'histoire. Alors ça, c'est un truc, on a une espèce de réserve si on fait ça peut être dans le role-playing aussi, des choses qui plaisent au maître du jeu, ou alors on peut se mettre en difficulté quelquefois pour gagner des points d'histoire qu'on ressortira à un moment où on sera vraiment coincé, et qui nous permettront d'activer un Deus Ex Machina qui nous sortira en fait d'une situation compliquée, quoi. Et tout ça, c'est comptabilisé dans le livre de règles. Il donne tant de points, voilà, pour faire arriver une voiture de police ou des choses comme ça, tu vois.
Ouais, ça permet de rebondir en utilisant effectivement des choses qui sont prévues pour.
Ouais, et qui est un peu comme dans les bandes dessinées où le méchant avait fait tomber un Browning de sa poche et hop.
Allez, je ramasse le Browning, voilà.
et retourne la situation.
Trop bien. Et ça fait vraiment très BD en fait.
Tout à fait, ouais.
Très ressort scénaristique de BD.
Je pense que ça a vraiment été pensé dans cet esprit-là.
Et est-ce que tu sais, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que compte la gamme en termes de
alors, donc, il y a le livre de base. Donc, lui, qui, ça y est, les souscripteurs anglo-saxons l'ont déjà reçu, qui fait à peu près 250 pages. Donc, qui est aussi un peu, ça se présente un petit peu comme une grosse bande dessinée. Et donc, dans ce livre de base, on a, alors, pas mal de règles quand même. Et puis, tout le background, il y a aussi des pré-tiré, et puis alors il y a pas de scénario, par contre, si je me rappelle bien. Donc il y a deux scénarios qui sont en fait en ligne sur le site de Helmgast. Donc il y avait celui qui était dans le kit d'initiation, et puis il y en a un autre qui se passe sous le Mont Blanc d'ailleurs. Et en fait, le jeu est souvent basé en des principes, c'est que les personnages, alors si on prend vraiment les pré-tirés qui sont proposés, ça se passe souvent, ça commence à Paris en fait.
Ok.
Donc je pense qu'il y a une certaine fascination aussi pour la France de l'auteur du jeu. Alors après, c'est assez cool. Moi, j'aime bien aussi proposer un petit peu des petits objets à ma table de jeu de rôle. Et là, donc un Paris de 1965, je vais quand même pouvoir ressortir le vrai plan du métro de l'époque, ou même des petits objets, quoi.
Ouais, ça met bien l'ambiance derrière.
Ouais.
Juste comme ça, hein, puis je prends personne, aucun auditeur à partie, mais tu nous ferais pas un scénario pour les Voiles et Scénarium?
Ah bah, il faudrait que je relise pas mal de BD, ouais, alors, mais j'y pensais, hein, je me suis remis dans Spirou d'ailleurs pour retrouver
pour reprendre l'ambiance,
les inspirations. Alors en fait, donc il y a le livre de base qui est sorti, et il y a aussi une campagne en fait qui est sortie, qui s'appelle The U-Boat Mystery pour le moment, qui va nous entraîner à la recherche d'un sous-marin coulé pendant la Seconde Guerre mondiale de l'autre côté de la planète, dans des îles. Mais ça nécessite quand même de voyager d'abord. On va au Met, à New York, il y a des scènes dans Paris aussi, enfin tout un jeu de pistes, une campagne qui fait à peu près 60-70 pages. Et là, ils sont déjà en train de bosser, j'ai vu, sur d'autres campagnes qui vont arriver, notamment il y en a une qui va se passer dans le milieu des courses de chevaux, là, apparemment, du côté de Longchamp, je crois. Voilà. Et sinon, il y a des petits scénarios qui arrivent aussi de temps en temps. Donc, il faut aller sur le site de Helmgast, en fait, H-E-L-M-G-A-S-T, pour trouver tout ça dans la rubrique Downloads. Et sinon, aussi, il y a le Discord, en fait. Il y a un Discord pour le jeu, quoi, qui est assez actif. Et donc, on attend que Arkane Asylum nous traduise tout ça. Bon, ce sera prévu pour début 2022, voilà.
Ok, ça, on va pas avoir beaucoup longtemps à attendre.
Non.
Toutes les ressources dont tu parlais, bien sûr, c'est des ressources qui sont en anglais exclusivement ou il y a des versions françaises qui sont déjà disponibles ?
Eh ben, tout est dispo en anglais, et sauf le kit d'initiation où il y avait déjà un premier scénario qui nous emmenait en Grèce, en fait, sur une île où il se passe des choses, il y a du trafic d'objets d'art et tout. Mm-hmm. Et d'ailleurs, si vous regardez le dessin qui présente en fait ce scénario, ça ressemble carrément à la couverture de L'île Noire, en fait.
Ah oui,
deux personnages sur un bateau avec une île derrière dans le fond mystérieuse.
Bon, voilà. Ben merci à toi Romain pour cette chronique. À réitérer hein, en live si ça te fait plaisir.
Moi je trouve que c'est, ça donne une certaine dynamique. Des petites idées, il y a Cyborg là qui sort en ce moment, qui est en financement participatif aussi, la version Space de Morbang, ou aussi je viens de recevoir je me rappelle plus du titre ce jeu de science-fiction Death in Space, voilà, qui était en projet depuis longtemps. Mais c'est que des jeux suédois, je suis désolé, mais
Suède elle vend en poupe actuellement en termes de jeux de rôle.
Je vais peut-être faire une rubrique en fait que sur les jeux suédois finalement, ce serait peut-être plutôt ça le truc.
Eh ben écoute, merci à toi. Pendant que nous installons le monde et chauffons le scénarium, ou l'inverse, nous vous invitons à une légère pause musicale avec une chanson bien sortie des années 80. Pour ce soir, j'ai choisi Eyes of the Tiger de Survivor.
Très bien, donc c'est pour Tales from the Loop ça.
C'est ça. On se retrouve tout de suite. We'll be right back. Survivor avec The Eye of the Tiger, l'œil du tigre, sur le 101.5 de Radio G que vous venez d'entendre. Écoutons à présent les voix. Nous avions laissé les voix incarnées par Marc, Thierry, Cyril et Julie, qui s'étaient lancés à la poursuite d'une créature dans les bois. Nous les avions laissés alors qu'une journée de chasse aux monstres se terminait. Est-ce que quelqu'un veut me raconter sa soirée?
Ce soir, papa est là un peu plus tôt. Donc je profite un peu de lui. Puis il y avait quelques francs sur une table, donc je les prends parce que j'aime bien l'argent. Et c'est pas de ma faute. Et voilà, je profite un peu de mon père. Et ensuite, je me fais beaucoup de théories sur. Je m'inquiète quand même pour Claire, quoi. Ça se trouve, elle est dans un endroit où il fait froid, il fait pas beau, et voilà.
Moi, en rentrant, je suis monté direct dans ma chambre et puis je me suis souvenu qu'il y avait Madame Durand ce matin et que ça a l'air bizarre quand même. J'aimerais bien en savoir plus. Du coup, je redescends et je vais voir Richard, qui est en train de préparer à manger, étonnamment. Parce que mon père est encore en train de louser dans le canapé. J'y prête même pas attention.
Lui non plus.
Comme d'habitude. Richard, elle voulait quoi, Madame Durand, ce matin?
Si ça peut te faire.
Bah, comme ça, pour savoir. Elle a l'air bizarre.
On m'avait parlé d'une de tes camarades de classe, là, Claire.
Ah ouais.
Elle a disparu, visiblement, et voulait savoir si je l'avais pas vue.
Ouais, et alors, tu l'as vue, non?
Bah, non. Je suis dans la même classe que sa sœur, mais.
Bah ouais, je sais bien.
Sa sœur, la dernière fois qu'il l'a vue, c'était le vendredi. Et ça fait, bah du coup maintenant, ça fait 4 jours qu'elle est disparue, quoi.
Elle l'a pas vue depuis vendredi.
C'est ça.
Ah la vache.
Et ils savent pas où elle est, donc ça stresse un petit peu tout le monde.
Ah bah tu m'étonnes. Ah, on est en train de la chercher aussi, nous.
Nous, avec tes copains, là?
Bah ouais, on se fait des soucis, quand même.
Ah, tu te fais des soucis pour quelqu'un, toi?
Bah ouais.
Ouais.
Puis peut-être que ça pourrait faire plaisir à Fanny si on retrouve Claire.
Ouais, pas bête. Ah, écoute, si tu sais quelque chose, tu me diras.
Ouais, ouais, toi aussi, hein.
Ouais, sans problème. Tiens, pense à ça. C'est donc Madame Durand, tu sais que son mari, il est vétérinaire.
Ouais.
On a cassé une vitre de sa boutique et on a volé des choses dans sa boutique.
Ah.
C'est pas toi?
Ah non.
Si tu sais quelque chose, tu me diras aussi.
Ouais.
Ok.
Ouais, d'accord, ok, ok.
Bon, tu me ranges ta chambre et tu mets la table, s'il te plaît. J'ai dit s'il te plaît, hein. C'est bon.
Ouais, ok, ça va. Ok. Et je mets la table pour un coup.
Merci. Quelqu'un d'autre? Cyril? Julie?
Je t'en prie.
Ils se font des ronds de jambes comme ça. Allez, vas-y, Cyril.
Je rentre. Papa est en train de regarder un match de foot. Il y a la France qui joue ce soir, donc.
Ouais.
Pour une fois, il veille un peu. J'arrive. Je prépare à manger. On mange devant le match. Il y a un truc qui me fait tiquer, c'est que papa. Il a la main bandée. Oui, il a la main bandée, donc voilà, ça me plaît pas quand ça arrive. J'aime pas quand il se blesse. Je sais qu'il utilise des scies, des tronçonneuses, tout ça, c'est dangereux. Et puis en fait, il regarde pas la fin du match, il est trop crevé, donc il va se coucher. Et moi, je décide d'aller voir Fanny chez elle, en fait, avec Wolf. Parce que ça m'embête quand même cette histoire de casier qu'on va abîmer. C'est plus simple d'aller demander à Fanny. Donc je sors et je me rends là-bas.
Ok, tu sais qu'il est tard.
Ouais, mais j'ai 10 ans, ça passe.
Ok. Donc on va faire un petit focus sur son action. Tu sais qu'elle habite presque de l'autre côté de la ville. Tu commences à vouloir... alors partir, et Wolf n'a pas l'air de vouloir te laisser partir. Il reste assis, puis quand il voit que tu t'éloignes,
il veut pas que je sorte. Qu'est-ce qui se passe, Wolf? Il y a du danger. Timmy est tombé dans le puits.
Tu sens qu'il il regarde vers l'extérieur, il est pas... Il a pas l'air de vouloir te laisser sortir.
Bon, je me fie à Wolf et je vais rester à la maison pour ce soir. Me dire qu'il est tard et que je veux pas déranger Fanny et sa famille en ce moment, que Wolf a raison et qu'il est plus raisonnable que moi.
J'ai le même âge physique,
voilà.
Mais mental, peut-être pas.
Je me couche tôt et je me lèverai tôt.
Julie ?
Donc moi, quand je rentre, je suis très... je suis très soucieuse pour Fanny, pour les monstres. Je me prévois une soirée sur mes croquis pour essayer de déterminer le nombre de membres que le monstre peut avoir. Et en fait, j'ai la surprise qu'au moment où je rentre, papa et maman sont là pour dîner avec moi. Donc du coup, en fait, je laisse tout tomber et je profite un petit peu de mes parents.
Ils en profitent également pour discuter avec toi justement de Claire. Et tu penses que s'ils sont plus présents au moins aujourd'hui, c'est qu'ils ont entendu parler de cette histoire et que ça les inquiète un petit peu et que ils se sont dit tiens mince, effectivement on n'est pas souvent là, autant en profiter pour prendre un peu soin de notre fille.
D'accord. Du coup j'essaye de leur poser des... enfin, parce que c'est des parents, donc peut-être qu'ils parlent avec les parents de Claire et de Fanny, et du coup j'essaye de poser des questions en fait. Savoir depuis quand ils n'ont pas de nouvelles.
Ils t'expliquent qu'ils ont eu quelques informations, un petit peu comme tout le monde, que Fanny serait portée disparue, enfin que Claire serait portée disparue depuis vendredi dernier. Au début, ils ne se sont pas trop inquiétés parce que les parents étant séparés, l'un pensait qu'elle était chez l'autre.
D'accord.
Et visiblement, ce n'était pas le cas. Et que là, dès lundi, ils se sont rendus compte que n'ayant pas été à l'école, fallait bien un moment s'inquiéter.
Mais du coup, pas plus, ils n'ont pas d'autres...
Non, la gendarmerie a été prévenue, il y a un avis de recherche qui a été lancé, c'est pour ça qu'ils ont commencé par chercher vis-à-vis des proches. Ils ne savent pas si elle s'est perdue en forêt, il y a une battue qui va être organisée, mais pour l'instant, ils ne savent pas trop quand ça va être mis en place.
D'accord.
Donc, voilà.
Ok.
S'il n'y a pas de nouvelles là d'ici quelques jours, il y aura une battue qui sera mise en place pour essayer de chercher dans la forêt directement.
Parce qu'elle serait, elle aurait disparu plutôt dans la forêt.
Ils savent pas en fait.
D'accord.
Mais du coup, c'est une des possibilités et comme la forêt peut être dense, c'est ça qui est le plus envisagé au départ.
D'accord.
D'abord une enquête, ensuite battue.
Ok.
La matinée arrive et il va être temps de partir à l'école. Oui.
Alors, je me lève particulièrement tôt, c'est-à-dire que je me lève pour une fois pour être levé en même temps que papa.
Ok.
Et je lui demande de me parler des gardiens. Parce que, vu qu'en tant que bûcheron, c'est peut-être quelque chose qu'il connaît mieux que moi. Et du coup, je lui dis qu'on a vu des gardiens faire des choses bizarres, que j'en ai parlé au garde forestier, qui m'a dit que c'était pas possible. Mais que du coup avec les copains on a suivi un et qu'on l'a trouvé en train de ramasser des pommes pourries dans les poubelles et de partir dans la forêt et je comprends pas en fait. Alors je veux pas faire de bêtises mais donc s'il peut m'expliquer pourquoi un gardien ferait ça, ça m'intéresse.
Il a l'air assez interloqué puisque effectivement il fait comme le garde forestier, il t'explique que les gardiens normalement ils restent dans la forêt. Qu'ils sont là pour programmer, pour faire des tâches. Alors, il n'aime pas trop les gardiens parce que ça lui a un peu piqué une partie de son boulot. À la base, tout ce qui était élagage bas ou des choses comme ça, c'était de son ressort. Et ces petits robots-là, ils sont capables de le faire à sa place et ils coûtent moins cher. Donc, celle-là, c'est des robots qui l'énervent un petit peu. Mais pour lui, c'est pas possible que vous en ayez vu un en ville parce qu'il y a. Je sais pas comment ils sont faits comme ça. Ouais, il est pas, il va pas parler de programmation parce que c'est des langages qu'il comprend pas. Mais ils sont prévus pour rester dans la forêt. Et tu sens que le sujet l'énerve un petit peu parce que c'est irritant pour lui ces petits gardiens là.
Ok. est-ce que juste, enfin, j'essaye de marcher sur des œufs en posant la question, mais est-ce qu'il sait qui les répare en ville? Est-ce que il y a une boîte sous-traitante ou est-ce que c'est directement le Loop qui
Il a pas l'air de savoir.
Ok.
Qu'est-ce que vous faites de votre journée? Donc, faut aller à l'école.
Et puis... Quoi, on a de l'école le mercredi en plus?
Ben ouais.
Non, c'est les années 80. Y a pas... c'est...
Non, il n'y a pas de mercredi.
Non.
Donc vous n'avez pas école le mercredi. Pardon. Donc pas d'école le mercredi, mais c'est trop
ouais.
bien. On a tout fait de journée.
Qu'est-ce que vous faites de votre journée? Dites donc.
On regarde Club Dorothée, comme tous les enfants.
Mais non.
C'est que l'après-midi.
Non, c'était le matin, le Club Dorothée.
Ah non, c'était toute la journée.
C'était toute la journée.
C'était toute la journée, ouais.
Mais pas en 1982. N'importe quoi, ça c'était en 1987, deux, ça.
On devait être récré. Bon, bref, on va pas faire la revival de...
Mais non, il faut reprendre l'enquête.
Non, bah oui, moi du coup, je me lève plus tôt que d'habitude le mercredi, parce qu'on s'était dit avec les copains qu'on se retrouverait pas trop tard.
Carrément.
Et du coup, je vois que mon père est déjà parti au boulot, ma mère est là toujours à préparer le petit déjeuner. Elle me voit plus tôt que d'habitude et elle est un peu surprise. Et je lui dis qu'en fait, je vais passer la journée dehors et que j'aimerais bien avoir un peu à manger. Et du coup, elle me prépare un sandwich et je lui demande de rajouter deux fruits.
Ok.
Moi, je fais pareil en fait. En me levant, j'essaie de faire preuve de bon comportement. J'aide mon frère Richard à s'occuper d'Estelle ce matin. Et puis après avoir pris le petit-déj, je me prépare un sandwich et je dis à Richard, avec les copains, on a prévu d'aller à la recherche de Claire. Donc je sors ce matin et je rentrerai tout à l'heure.
Ouais, tu fais pas de conneries?
Non, on va juste aller dans les bois et puis on va chercher. En attendant que la battue soit organisée, là, nous, on va pas perdre de temps. On va faire nos recherches.
Ouais, mais tu fais pas de conneries.
Bah non, comme Nab, tu me connais, hein.
Oui, mais justement.
Bah.
Ouais, pas de. Comme ça.
Ouais, bah si, quand même.
Oui, bon, ouais, c'est bon.
Tu vends. Donc je finis mon sandwich, hop, j'emmène tout ça dans un sac à dos et je file retrouver mes potes.
Julie?
Bah, et moi, bah, comme tous mes petits camarades, en fait, je me lève un peu plus tôt. Mes parents sont repartis très très vite au travail. Et en fait, je prends le sac le plus. Un des sacs les plus grands que je puisse porter et je prépare voilà, bon, c'est pas très gentil de se moquer même si on t'entend pas.
Tout petit sac.
Donc je prends le sac le plus grand que je puisse porter, oui, bah même s'il est tout petit, c'est pas grave, et je le remplis de fruits, d'eau, enfin tout ce qu'il me faut pour une journée et surtout pour attraper le gardien voleur de pommes.
Ok. Donc vous allez, j'imagine, au repère.
Oui, pareil.
Oui.
Bon, ok. Oui, je t'ai pas demandé. Enfin, t'avais commencé ta journée, mais tu voulais rajouter d'autres choses, Cyril?
Ah non. Enfin, après, je vais faire comme les autres. Préparer un pique-nique, préparer mon sac. Voilà. J'ai dû bricoler une boîte plus grande.
Oui.
Voilà.
Ok.
Un piège plus grand.
Donc tu viens avec ton grand piège et vous retrouvez à votre repère, à votre cabane. Et votre cabane, elle a été fouillée, dites donc.
Quoi?
Ben ouais. Vous êtes sûr que la boîte métallique avec la trousse de premier secours, elle était là? Et là, il n'y est plus.
Ben, c'est pas possible.
Ah la vache!
J'ai personne qui vient ici, c'est dégueulasse.
Encore un coup du pharmacien.
Punaise!
Bah c'est peut-être le monstre. Il nous a peut-être vus.
Ou le gardien. C'était dans un arbre.
Ouais, mais c'est un voleur de pommes.
Et ouais,
moi,
peut-être qu'il vole plein de trucs.
Il veut pas qu'on retrouve Claire. Et du coup, il nous empêche de pouvoir nous soigner des fois qu'on aurait à le combattre.
Il y a des traces dans la cabane à part ça?
Il y a des traces de pincements, effectivement. Des traces de... Des marques qui n'étaient pas là sur les ouvertures.
Ah!
Oui, bah c'est bon. Hein.
Et puis quand vous regardez un petit peu autour, vous vous rendez compte que il y a un petit reflet métallique par terre. Vous vous en rapprochez.
Ouais. Mmh.
Et il y a une aiguille qui a dû tomber de la boîte.
Ah. C'est un indice. Est-ce qu'on a... Ouais.
Un peu plus loin, il y a un autre reflet métallique.
Ce que j'allais dire, si s'il y en a un qui est tombé, il doit y avoir d'autres trucs qui ont dû tomber parce que la boîte était ouverte.
C'est ça.
Donc on va suivre le petit pousset.
Voilà. On va pouvoir suivre la piste.
Commencez à rentrer dans la forêt. Donc, pareil, je ne vous fais pas la description de la forêt, mais
non.
Plus vous avancez, plus les arbres sont serrés, plus ça devient compliqué en fait d'avancer, et plus il fait sombre. Et vous repérez petit à petit des petits morceaux de la boîte, un pansement, une paire de ciseaux. Puis vous rendez compte que presque tout le contenu de la boîte a dû s'égayer en chemin. Et tel le petit poussé, effectivement, vous continuez à avancer. Et à continuer à pénétrer dans la forêt. Et à un moment, vous n'avez même pas besoin de faire un jet de découverte. Vous voyez loin devant vous, à peut-être une dizaine de mètres, une gigantesque silhouette. Silhouette qui doit faire entre 2,50 m et 3 mètres.
C'est le monstre !
Wow !
Comment vous réagissez ?
Je m'arrête sur direct. D'ailleurs, je fais des gestes à mes copains. Et...
Je fais une espèce de fascination et en même temps de moment effrayé, quoi, de voir cette espèce d'immense truc devant nous. Je sais pas ce que c'est. Et du coup, j'essaye quand même de plutôt montrer le côté fasciné.
Waouh, incroyable.
Alors, je me mets à plat ventre et j'attrape Wolf par le cou, à la fois pour le retenir et puis pour me rassurer.
T'as l'impression que Wolf, il le calcule pas du tout.
C'est pas vivant.
Julie ?
Et moi, je suis à la fois fascinée et tétanisée, mais en fait, mon premier réflexe, c'est de sortir mon carnet à croquis et commencer en fait à le dessiner.
Ok. Pendant que tu le regardes, vous vous rendez compte, ça vous a stoppé net, cette silhouette. Vous vous rendez compte que la silhouette, elle a pas l'air stable. Ça a pas l'air d'être... La créature, c'est comme si elle ondulait très légèrement. Et effectivement, quand vous la regardez au fur et à mesure, des fois, vous voyez un bras qui sort, puis un bras un peu plus bas. C'est très bizarre.
Mais elle se déplace pas.
Elle se déplace pas. Elle a l'air d'être statique. Alors, quand je dis elle se déplace pas, elle va se décaler un tout petit peu. Mais elle va pas faire 2-3 mètres d'un coup. Elle bouge un tout petit peu, mais ça reste bizarre.
Ouais, c'est comme si elle n'était pas stable, en fait, sur ses pieds. En fait.
C'est ça.
Ouais, ou alors... peut-être qu'il est déphasé.
On va s'approcher.
Ouais, on va aller voir de plus près.
Ouais.
Il est à quatre pattes.
Hein ?
Mais chut, vous commencez à vous planquer, à essayer de vous rapprocher. Et puis... Bon, je vais vous faire un petit jet de furtivité, tant qu'à faire.
Ah ouais.
T'étais pas obligé.
Mais si, je sais que t'es agile, mais pas furtif.
C'est ça.
C'est bon pour moi.
Pas moi.
Je suis plutôt chut.
Taisez-vous.
Raté.
C'est bon pour moi.
Donc, on a Marc et Julie qui ont réussi.
Ah non, c'était Marc et Sophie.
Cyril et Thierry, en fait, vous avez commencé à essayer de vous planquer. Pas évident. Vous avez fait un peu de bruit, des branches qui craquent. Hein, c'est pas.
On va essayer de ramper avec un piège que tu traînes derrière toi.
C'est clair.
Et un chien.
Et un chien. Mais le chien, il calcule rien. Donc.
Et puis, pendant ce temps-là, Marc, c'est un petit peu faufilé. Stéphane, pardon. Et puis, Justine, on a réussi à se planquer. Alors, voilà, Justine, elle se cache derrière un arbre. On la voit plus de toute façon. Donc, c'est. Efficace. Et pendant que vous essayez, tant bien que mal, de vous dissimuler, vous avez légèrement quitté la silhouette, la créature, les yeux. Et au moment où vous êtes planqué, vous vous dites, bon, allez, on va par là, on va commencer à progresser. Vous vous rendez compte qu'elle n'est plus là.
What? Elle est passée où?
Elle est retournée dans son monde parallèle.
Tu la vois?
Non, je la vois pas.
Et vous scrutez un petit peu autour.
Non, non,
non, tu la vois pas non plus. Non, vous, vous avez essayé de vous planquer quand même. Vous êtes foiré. Mais vous avez quand même essayé de vous planquer. Et commencez à regarder un petit peu autour. Et puis vous vous rendez compte que il y a des petites silhouettes. Il y a un groupe de 4 ou 5 silhouettes.
C'est les gardiens.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Vous croyez que c'est les gardiens qui s'assemblent pour essayer de nous faire croire que c'est des monstres?
Non, ils sont pas faits pour ça.
C'est peut-être que... je reste sur mon idée de déphasage. Champ magnétique qui attire les gardiens. C'est très courant que les machines soient folaillent un peu quand elles sont proches d'un champ magnétique. Ça a été très courant par rapport aux machines des usines alentour quand le loop s'est installé. Il a fallu du temps pour remettre des réglages parce que il y avait des ondes qui faisaient qui déréglaient tout. Si ça se trouve, c'est pareil. Mais
tu vois, Nils, au final, il a fait Polytechnique.
Ouais.
J'ai un abonnement à Sciences et Vie Junior, en fait.
Ah.
Effectivement, souvent, il sort des petites choses comme ça. Vous dites, mais nous, on n'a pas vu ça à l'école.
Ah, mais non.
Mais sinon, très, très concrètement, au sol, il n'y a pas une trappe, tout bêtement, ou quelque chose dans lequel le monstre aurait pu disparaître.
Tu t'approches, tu commences à regarder. Non, ça a l'air d'être un sol. Et les créatures autour n'ont pas l'air de bouger.
Et elles surplombent la zone où il était.
Elle semble désigner effectivement cette éparpillée autour d'une zone. Mais effectivement, vous commencez à avancer un petit peu.
Ouais.
Et vous regardez, effectivement, vous redistinguez d'autres créatures qui semblent définir une sorte de périmètre.
Le cercle est régulier ou
C'est difficile de juger le cercle. C'est un périmètre qui serait pas vraiment oui. Rond, t'es pas vraiment sûr.
Bah, du coup, je m'avance dans le périmètre, je cherche. Il y a forcément quelque chose, il s'est pas évaporé le truc. Il s'est caché, il y a un truc.
Ok. Commencez à avancer. Effectivement, il y a rien au sol. Vraiment, donc tu alternes. Bon, tous, hein, vous alternez entre le sol pour essayer de trouver une éventuelle trappe, les espèces de créatures qui sont en surface. Et puis, à un moment, vous distinguez une espèce d'ouverture. Ça fait bizarre parce que vous êtes passé d'un sous-sol moussu à une espèce d'ouverture. Et sur les bords, ça a l'air d'avoir une structure assez régulière. Comme si c'était vraiment effectivement une trappe ou un sas.
Wow.
Peut-être
le repère des gardes.
Non, là, j'ai plus peur, moi. Je pousse les mousses, les herbes, les machins. Faut que je vois. Et je commence à sortir mes outils, sortir ma trousse à outils.
Alors, au moment où vous commencez à avancer sur cette zone-là, vous vous rendez compte que le sol réagit d'une manière assez différente. Vos pas s'enfoncent dans la mousse, dans les choses comme ça. Et là, il y a une espèce de dureté sous vos pas qui est un petit peu plus étrange. Et au fur et à mesure que vous vous rapprochez, vous vous rendez compte que doit y avoir une couche d'humus. Enfin, d'humus.
D'humus. Tu commences à avoir faim.
Je préfère le taram.
Il doit y avoir une certaine couche d'humus, en fait, qui recouvre une structure peut-être métallique.
C'est une batcave.
Ouais.
Et à mesure que vous progressez, vous rendez compte, donc, tu tâtonnes un petit peu, Cyril est en train de vraiment chercher à comprendre ce que c'est. Et vous arrivez, effectivement, il manque une surface de 2 mètres sur 1,50 m à peu près, rectangulaire, au sol. Et en vous penchant au-dessus, vous rendez compte que ça a l'air d'être une surface complètement métallique.
Il y a une poignée,
Il n'y a pas de poignée.
Des charnières.
Il n'y a pas l'air d'avoir de charnières. La surface, c'est juste un trou. Hein. C'est vraiment. Ça, ouais. Et c'est à l'intérieur où vous avez l'impression qu'il y a une surface métallique. Et vous vous penchez au-dessus.
Ouais.
Et vous vous rendez compte que en bas, peut-être 3 mètres en 3-4 mètres en contrebas, il y a une jeune fille.
Claire ?
Elle n'a pas l'air de répondre.
Claire ?
T'as une espèce de petit écho qui commence à se répandre dans l'espace en bas. Et
oui, balance lui un fruit.
Vous regardez en bas et vous avez l'impression qu'elle a déjà des fruits. Vous voyez la petite boîte métallique qui avec la croix rouge qui a l'air d'être en bas aussi.
Tu vas bien?
Mais je peux pas bouger. J'ai la jambe cassée.
D'accord.
On va.
Il faut qu'on aille chercher des secours.
Il faut qu'on prévienne les adultes. Les pompiers.
Ils vont pas nous croire.
Est-ce qu'on va chercher les adultes ou est-ce qu'on va chercher une corde et on essaye de la remonter?
On va essayer de trouver. Il doit y avoir des grosses lianes, des trucs comme ça dans le coin. C'est solide.
Ce sera plus simple avec une corde parce que une liane, le temps qu'on les tresse, on va perdre plus de temps.
Ouais, t'as raison. Allez, on cherche une corde.
Bon, ça se trouve.
Voilà, ça se trouve. On a peut-être même prévu une avec ta grosse boîte.
Alors, peut-être pas. Il y a un moment où il va falloir que je pourre.
Si,
tout.
Si. Allez, on l'avait prévu.
Une caravane derrière.
Faisons avancer le scénario, on l'avait prévu.
D'accord.
Non, mais voilà. Après, le trajet ne va pas forcément être très long pour aller chercher une corde. Vous n'êtes pas forcément enfoncé hyper loin dans la forêt. Hein. C'est ça aussi qui est.
Ouais, puis je pensais aller la chercher chez le garde forestier en fait.
Eh bien, c'est tout à fait plausible. Vous arrivez chez le garde forestier.
On peut lui dire.
Oui, on peut même lui demander de venir avec nous, puisque niveau muscle, il sera plus fort que nous. Quoi.
Ouais, c'est fort.
Je suis pas sûr. Hein.
Sur une échelle de 1 à Schwarzenegger, tu te places où?
Ah, juste avant
Schwarzenegger. Cherche.
Effectivement, vous pouvez aller chercher le garde forestier, vous repérez un petit peu, parce qu'il y a effectivement ces espèces de sentiers que vous arrivez à retrouver. Alors, c'était pas. Vous vous rendez compte que c'est la zone que vous avez découverte, elle était en marge d'un des sentiers, que forcément, s'il fait son chemin, sa routine systématiquement, il ne pouvait pas passer par là. Vous allez le chercher, bah, qu'est-ce que vous voulez, les enfants?
On a trouvé clair.
Ok. Un à la fois. Elle est où?
Elle est dans un trou. Là-bas, avec les gardiens.
Ok. C'est profond?
Ouais.
Ah ouais, c'est profond.
3 ou 4 mètres au moins.
Il nous faut une corde.
Beaucoup, ouais.
Ok, je prends ça.
Et des muscles à la jambe cassée.
Hein? Des muscles de jambe cassée?
Non, elle a la jambe cassée, il faut des muscles aussi, donc on a besoin de vous.
Ok. Tu cours vite?
Ouais.
Va à la ville, tu cherches le médecin.
Ouais, d'accord, okay.
Nous, on se retrouve au trou.
Je fonce. Okay. Ouais.
Il prend sa...
Faut faire attention au monstre.
Un monstre?
Ouais, le truc de 2 mètres, il a disparu d'un coup, il était là.
Laisse tomber.
Il prend sa corde, il commence à courir.
Hop. Les adultes.
Si vous arrivez, effectivement, alors il se rend compte que la structure est peut-être un petit peu pas super stable. Donc le temps que tu ailles à la ville et puis que tu reviennes, il se passe peut-être une dizaine de minutes, hein, si tu cours vite, tout ça.
Ah, je cours super vite.
Et
Usain Bolt.
Sur une échelle de... Ah,
juste avant Usain Bolt.
L'homme qui valait 10 balles.
Et en fait, sur place, effectivement, le garde forestier fait hyper attention parce qu'il se dit, voilà, il y a peut-être moyen de chuter encore si on fait pas gaffe. Il bascule une corde qu'il attache d'un côté à un arbre et puis il commence à descendre. Et il essaie de la rassurer parce que, bah, effectivement, elle n'a pas l'air très très rassurée. Elle a un peu froid.
Étonnant.
Et du coup, les secours finissent par arriver. On extrait Claire de ce trou et tout est bien qui finit.
Incroyable. Et c'est nous qu'on l'a retrouvé, hein.
Ouais, on a sauvé une vie
avec les robots, les gardiens.
Et effectivement, quand vous racontez votre histoire, bah, tout le monde est content qu'effectivement vous ayez eu la chance de trouver Claire. Alors, quand vous parlez des créatures et tout, vous dites oui mais c'est bon, avec les ombres, un peu d'imagination, mais
c'est pas de la chance, hein. Bon, c'est du talent.
Oui,
d'accord.
C'est parce qu'on est trop fort.
C'est tout pour les voix du scénarium sur Tales from the Loop. On va laisser les voix se coucher et bien profiter de cette nuit de repos après leur grande aventure. J'espère que cette partie de Tales from the Loop vous a plu. C'était une partie qui a été jouée par Thierry, Cyril, Julie et Marc. On l'a jouée sur on a fait une grosse partie qu'on a diffusée en quatre parties. Je vais voir si j'arrive à refaire un montage complet pour pouvoir vous en faire profiter sans interruption. La prochaine fois, on partira loin. Là, vous n'entendrez pas les voix crier dans l'espace, bien entendu. Le jeu, bon, si vous êtes un petit peu au taquet sur ce qui existe en jeu actuellement, je pense que vous devriez assez facilement deviner de quel jeu il va s'agir. Juste avant de nous quitter, alors encore quelques instants, je voulais juste faire un petit retour sur Roll Event. Vous en avez peut-être entendu parler, c'était un événement autour du jeu de rôle organisé par la Fédération Française de Jeux de Rôle qui était principalement fait de manière numérique. Il y a eu plus de 7400 visiteurs totaux sur le site Roll Event, répartis sur 4 jours. C'est 4000 un petit peu plus de 4000 euros de dons qui ont été récoltés en faveur des associations. Le but était de pouvoir reverser des dons à des associations caritatives. Les trois associations qui avaient été sélectionnées, c'était Blues Rose, l'association Théodora et Hopi Clown, pour permettre de créer et de former des équipes de bénévoles pour faire jouer et rire les patients dans les hôpitaux. On a aussi un événement, alors ça c'était pour Roll Event, hein, je vais pas rentrer dans tout le détail, mais c'est quelque chose qui va être amené à se refaire tous les ans, je pense, et du coup peut-être que l'année prochaine on y participera, on va essayer de goupiller quelque chose pour pouvoir vous faire quelque chose. J'attire votre attention également sur le festival Imaginaire, donc c'est pas forcément que les jeux de rôle, mais il y aura des auteurs de jeux de rôle, si je ne me trompe pas, qui seront présents au festival qui se déroulera au Grenier Saint-Jean les 27 et 28 novembre prochains. Vous en avez sans doute entendu parler dans l'émission Imaginaire qui avait lieu juste avant. C'est un petit peu normal, donc il y a beaucoup d'auteurs, j'ai pas tous les comptés, mais il y en a beaucoup beaucoup, et c'est l'occasion de découvrir beaucoup de choses sur le monde de l'imaginaire dans la ville d'Angers. On se retrouve la semaine prochaine, j'espère que cette émission vous a plu, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour arpenter et entendre à nouveau les voix du scénarium. On se quitte en musique avec Jane Grant qui fait une reprise de The Eye of the Tiger.
Rising up back on the street, did my time, took my chances, went the distance, now I'm back on my feet, just a man and his will to survive. So many times it happens too fast, you trade your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the past, you must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching. Staying hungry,
the odds till we take to the street, for we kill with the skill to survive. It's the eye of a tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all in the eye of a tiger. Got the glory, went the distance, now I'm not gonna stop, just a man and his will to survive. It's the eye of a tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. Eye of a tiger.